Alain Gras, on te retrouve cet après-midi, cette fois-ci, pour nous parler du progrès. On n'arrête pas le progrès, c'est ça?
À peu près, oui. Oui, en fait, c'était annoncé sur notre titre. Probablement, ça avait été pollué par le titre de mon bouquin qui s'appelle « Fragilité de la puissance ». On avait annoncé « Technologie de la puissance ». En fait, c'est Fayard qui m'a obligé à prendre ce titre. Et moi, le titre que je vais donner à mon bouquin, c'est « La mythologie du progrès ». Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Et évidemment, ça suit tout à fait cet exposé qu'il vient de faire. Et à ce propos-là, j'avais préparé une petite citation que je voulais mettre à la fin, mais là, je me régale de la donner maintenant. Peut-être certains d'entre vous ont vu à la télé l'autre jour le film « Regain ». Et à un moment donné, Fernandel discute avec d'autres personnes sur le progrès technique dans le bus, avec ses autres agriculteurs. Et je ne sais pas si la citation est de Giono, mais Fernandel dit « Le progrès est un ogre qui mange ses enfants avant même de leur avoir donné à manger. » Et je pense que c'est un bel aphorisme qui correspond exactement à ce qui a été dit sur les caractéristiques de la publicité aujourd'hui, qui correspond exactement à cette manière de présenter le progrès, hein, toujours courir après quelque chose avant même qu'on en ait eu besoin, ou qu'on en ait eu le désir surtout. Donc c'est ça le manger, probablement, que voulait dire Giono. Moi, je vais essayer, en quelques mots, de déboulonner cette mythologie du progrès, de donner quelques arguments, si possible, évidemment, de type conceptuel, donc ce sera peut-être un peu théorique, un peu lourd, pour essayer de revenir en arrière, pour casser le mythe qui nous a été forgé par l'école, par les historiens des techniques, par l'idéologie dans laquelle nous sommes impliqués, au fond, depuis notre plus jeune âge, et essayer donc de voir avec la distance, avec du recul, la société dans laquelle nous sommes, et qui passe donc par tout ce qui vient d'être dit. Alors, une des premières choses, c'est que vous avez dans l'histoire des techniques, quelques historiens connus qui tous nous racontent que le progrès est linéaire, etc., etc. Bon, j'en parle pas de cela, mais il y a un historien, par exemple, qui s'appelle Bertrand Gilles, qui est un des plus intelligents des historiens des techniques, et qui dans son gros livre paru La Pléiade, s'interroge sur la technique en Égypte, sur la technique en Chine, et puis dit, mais c'est quand même curieux, ces gens-là n'ont pas su progresser, ils n'ont pas su développer le progrès technique, ils n'ont pas su continuer. Puis après il dit, mais la Grèce aussi ça a été pareil. Et puis ensuite il dit, mais toutes les... Et il ajoute, donc la Grèce, l'Égypte, le monde gréco-romain et la Chine. Et puis il ajoute, et que penser de certaines populations dites primitives qui sont restées au stade de la pierre? C'est-à-dire que la quasi-totalité du monde non moderne, non occidental, le seul monde qui connaisse ce que c'est que le progrès, c'est le monde occidental. Comment alors ne pas se poser la question de l'invention par le monde occidental d'un concept qui lui est parfaitement adapté pour exclure les autres? D'une part, et d'autre part, toute une théorie du progrès qui fait de la fatalité technique une naturalité, quelque chose qui est inscrit dans l'évolution humaine. Et c'est comme ça que peu à peu s'est forgée à travers l'histoire des techniques une fatalité technologique de laquelle on a beaucoup de mal à sortir. Je vais vous donner un exemple ici, très célèbre chez les anthropologues. André Leroy-Gourhan est le fondateur de l'école française de paléontologie et d'anthropologie préhistorique. Et voilà comment il décrit la naturalité du progrès technique. Ça s'inscrit dans la pierre et dans la manière dont elle devient de plus en plus efficace, comme s'il y avait dans la pierre une détermination à devenir un couteau. C'est comme ça que nous concevons le progrès technique, c'est comme ça qu'on nous l'apprend. C'est le paradigme du progrès technique tel que nous l'avons intériorisé. Et je montrerai tout à l'heure que cette question d'efficacité est à remettre en cause. Mais avant même d'en arriver là, on est obligé de s'interroger sur l'intentionnalité. Les gens qui n'ont pas connu le progrès technique, on peut supposer qu'ils ne voulaient pas du progrès technique. Qu'ils n'en voulaient pas. il n'y a pas de naturalité à le progrès technique, puisque 90% des peuples ne l'ont pas connu. Ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas, c'est parce qu'ils ne voulaient pas. Et si vous avez ici... Pardon ? Attendez, hey, je commence mon exposé. si vous prenez ces pierres-là, vous voyez une belle succession de pierres. Mais où peuvent-elles mener ces pierres ? Qu'est-ce que je fais avec des pierres ? Je peux faire des couteaux, mais je peux faire autre chose. Je peux très bien m'amuser à faire ça. Attendez,
En faire un clou.
Voilà. Je fais ça, c'est-à-dire je fais des pyramides, je fais des menhirs, et je fais une civilisation qui s'appelle la civilisation des mégalithes. C'est-à-dire que il y a, si j'étais un historien des mégalithes, je dirais dans l'histoire, tous les gens ont voulu construire des pierres de plus en plus grandes. Et je referais toute l'histoire du monde comme des gens obsédés par la taille des pierres et par les pyramides. Voilà ce qu'ont fait nos historiens modernes. Ils ont fait de nos ancêtres, des gens qui étaient obsédés par l'efficacité technique. Et nous en sommes les héritiers idéologiques aujourd'hui. Un exemple, puisque vous me demandez un exemple, je vous en donne un. Voilà. On sait que les Amérindiens connaissaient la roue. Ils connaissaient la roue, la forme de la roue, puisque le calendrier Maya, c'est trois roues qui sont concentriques. Mais on a eu la preuve que non seulement ils connaissaient la roue sur le plan théorique, mais ils connaissaient la roue sur le plan pratique. Voilà un jouet amérindien, un jouet aztèque. Eh bien, ce jouet aztèque, c'est un lama au lieu d'être un cheval, montre bien qu'ils connaissaient la roue, mais ils n'ont pas voulu choisir la voie de la roue. Pourquoi ? C'est un mystère, mais ils ont choisi. Le non-progrès dans le sens de la roue ne leur a pas été imposé. Il y a donc des choix de civilisation qui sont mystérieux, mais qui sont des bifurcations qui ne tiennent pas à une évolution et un déterminisme historique, mais à des intentions collectives qui se manifestent à un certain moment. Alors, l'intention manifeste qui s'est manifestée. Je vous donne un autre exemple d'un livre, d'une pièce d'Eschyle qui est toujours mal interprétée, parce qu'elle est interprétée dans ce sens du déterminisme historique, du progrès. À un moment donné, Prométhée, donc, qui est un titan, a été condamné par les dieux, et il y a le cœur qui représente un peu la sagesse, qui lui pose la question et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait pour être condamné ainsi ?» Prométhée dit « J'ai délivré les hommes de l'obsession de la mort. » Et le cœur répond « Mais quel remède as-tu donc découvert à ce mal ?» Et Prométhée dit « Je leur ai donné une espérance aveugle. » Et le cœur, ironiquement, lui dit « Quel avantage tu leur as ainsi procuré ?» Et aujourd'hui, ce serait « Quel progrès tu leur as ainsi permis ?» La remarque ironique du cœur, c'est « Tu leur as donné le feu, tu leur as donné le goût de la démesure, tu leur as donné le risque de se perdre avec le feu. » Et les Grecs, donc, on me demandait l'intention, les Grecs avaient très bien compris qu'on ne devait pas transgresser certaines règles dans leur rapport, évidemment, fantasmé avec la nature. Chacun a une manière de concevoir la nature, les Grecs en avaient une, et la démesure était la répulsion première qu'ils avaient dans leur rapport avec la nature. Donc, ce n'est pas les autres qui n'ont pas progressé qu'il faut interroger, c'est nous. Et voici ce que dit Bertrand de Jouvenel dans un très beau livre que vous connaissez probablement pas, qui s'appelle « La civilisation de puissance », écrit en 1976 et qui vient d'être réédité. Il écrit « Quelque chose qui n'a pas été dans de vastes parties du monde l'a été en Occident. C'est la population de machines nourrie de matière. » Et une autre citation de quelqu'un qui est aussi très connu dans le domaine de la réflexion sur la modernité, c'est Hannah Arendt. Et ce texte, je ne l'avais pas compris tout de suite et ça m'avait vraiment bouleversé. Hannah Arendt dit « Avant Galilée, toutes les voies paraissaient libres. Si l'on pense à Léonard de Vinci, on peut imaginer que dans tous les cas, une révolution technique eût prolongé l'évolution de l'humanité. Mais elle ajoute « L'évolution technique aurait peut-être conduit aux machines à voler, réalisant un des rêves les plus anciens et les plus obstinés, des hommes, elle aurait amené à l'unification de la Terre, mais non pas sans doute à la transformation de la matière en énergie. Donc voilà, Hannah Arendt, Eschyle, De Jouvenel, tout cela pose notre société comme une exception. Ce n'est pas les autres l'exception, c'est nous l'exception. Et ce n'est pas eux, ce n'est pas nous la longue durée, c'est nous le provisoire. Voilà déjà peut-être une réflexion qu'on peut avoir en regardant la généalogie de notre société. Je ne fais pas une histoire de notre société, hein, au sens des historiens avec une causalité, mais une généalogie au sens de Nietzsche ou au sens de Foucault. Essayons de comprendre pourquoi nous sommes là. Hein. Et donc, cette idée de la puissance moderne s'est construite à travers différents éléments. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la généalogie, mais prendre quelques exemples. Un des exemples, Ruth a parlé ce matin de Galilée. Galilée est un des grands héros civilisateurs de notre monde moderne. Or, que dit Galilée ? Galilée dit « la nature est inexorable et agit suivant des lois qu'elle ne transgresse jamais ». Qui le sait ? Qui le savait à l'époque ? Personne. Il construit une nouvelle réalité. Il construit un monde dans lequel il y a une naturalité des lois, dans lequel il y a un déterminisme possible où l'homme n'a pas à mettre son nez. Il construit donc toute la technoscience moderne idéologiquement. La moralité, elle, apostrophe A-moralité, ou l'immoralité si vous préférez, de la science moderne. Il y a un monde où on n'a rien à dire, c'est celui de la science et de la technique. Ça, c'est Galilée. Et ensuite, vous avez toute une civilisation qui, évidemment, repose sur des postulats de puissance, mais qui aurait pu ne jamais exister. Il y a Descartes, maître et possesseur de la nature, il y a Bacon, la nature servante, etc. Il y a tout un ensemble de postulats qui accompagnent celui de Galilée. Mais encore une fois, on aurait pu ne pas exister. Et puis arrive la machine. La machine qui, en fait, est un automate. Cette obsession que nous avons aujourd'hui, morbide, vous avez vu les Japonais qui viennent de sortir un chien, il y a eu les Tamagotchi, mais maintenant il y a un chien qui est encore bien mieux que les Tamagotchi, qui pleure, qui aboie, etc., et qui mange même, exactement comme le canard de Vaucanson, n'est-ce pas ? C'est-à-dire il y a quelque chose de morbide qui se met en place, à l'époque même des Lumières dont on a parlé, qui est le remplacement de l'homme dans son activité la plus essentielle, celle du travail. Pas du travail conçu comme une punition, mais du travail conçu comme un acte positif dans son rapport avec la nature. On va remplacer l'homme par la machine. Et cette idée de l'automate qui se développe d'abord dans un rapport ludique avec la nature, puis ensuite dans un rapport beaucoup plus, austère, je veux montrer que je peux faire des choses dans l'imitation du monde, donc me mettre à la place de Dieu. C'est ce que j'ai dit ce matin. The true and only even. La machine donne, au fond, la possibilité pour l'homme de construire un vrai paradis, celui mécanique. Et à ce moment-là, la machine va servir à la première révolution industrielle, mais là encore, rien n'était déterminé. Ce que je voudrais dire aussi aujourd'hui, c'est que je fais l'idéologie ou la généalogie du mythe du progrès, mais aussi la généalogie de la liberté. Parce que ces bifurcations ne sont pas des bifurcations obligatoires. Lorsque la première révolution se met en place, avec autour de l'eau des moulins à eau, il y a le capitalisme. Le capitalisme, il a besoin de main-d'œuvre. Il a besoin d'opprimer la main-d'œuvre pour faire des bénéfices. Il aurait pu ne pas passer à la machine à vapeur. En 1816, une grande encyclopédie anglaise ne parle pas de la machine à vapeur de Watt. L'encyclopédie française, vous le savez, ne parle pas de la machine à vapeur. Donc, en fait, c'est un élément marginal, la machine à vapeur. Mais le capitalisme était un petit peu empêtré avec la nécessité de localité du moulin. Le moulin, c'était une main-d'œuvre qui était recrutée sur place, donc des traditions, donc des cultures, donc des freins, donc des difficultés à vraiment maintenir la domination du capital sur le travail. On peut penser que la machine à vapeur a été un moyen pour le capital d'asseoir sa domination et d'inscrire la fluidité des échanges dans la réalité. Je ne rentre pas dans les détails, je pourrais vous donner des graphiques qui le montrent, mais en tout cas, c'est une nouvelle représentation du monde qui se met en place au XIXe siècle avec la première vraie machine à vapeur qui est la locomotive. La locomotive, elle nous inscrit vraiment dans le champ de la modernité. C'est elle qui produit les flux. qui produit un espace artificiel qui est celui des rails. Bel exemple, quel premier exemple hein, de l'artificialité du monde que nous crée cette modernité. Et la machine locomotive, ça va être la représentation, la mise en scène de la puissance de la machine à vapeur. Je vous donne un exemple ici. L'illustration, le 4 avril 1846, inauguration de la ligne Paris-Tours, 240 km. À 5h, les deux convois repartirent. À 11h15, nous arrivions à Paris après avoir fait 120 lieues en moins de 2h, si nous ne comprenons pas les temps d'arrêt. Grand et étonnant résultat, sans doute. Mais puissent les chemins de fer ne jamais sacrifier à un gain de temps des populations entières que les progrès de la civilisation obligent à se confier à ces machines et à ces employés. Où courons-nous si vite? Pourquoi cet empressement d'arriver? Ne serait-il pas temps de nous arrêter un peu sur cette pente rapide où nous glissons? Ne tombons-nous pas dans un abîme? Le XIXe siècle, si fécond en grandes et utiles découvertes, a inventé bien des idées, des sentiments et des habitudes qui doivent effrayer les moralistes et les penseurs. En 1846. Donc là encore, il y a une claire conscience. Il n'y a pas un progrès qui s'impose de lui-même. C'était un jeu de débat, contrairement à ce que nous racontent les livres d'histoire. Et je prends une autre citation. Excusez-moi, j'aime bien parfois les citations pour nous replacer dans le temps. En 1944, Bernanos, juste avant, parce qu'il est au Brésil, avant de revenir en France, où il va publier « La France contre les robots », qui a été réédité il y a 2 ans, je crois. « Depuis 2 siècles, l'homme a découvert le temps, mais il est aussi vrai qu'il le fuit, précipitant ainsi son cours. Nous sommes tournés vers le passé ou l'avenir, mais du coup le présent nous échappe. 30, 60, 100 millions de morts ne vous détourneront pas de votre idée fixe. Allez plus vite, par n'importe quel moyen. Allez vite, mais où? Comme cela vous importe peu, imbécile. Dans le moment même où vous lisiez ces deux mots, allez vite, j'ai beau vous traiter d'imbécile, vous ne me suivez plus. Hélas, la liberté n'est pourtant qu'en vous, imbécile. » Voilà. Donc, cette idéologie de la puissance à travers la rapidité, à travers la fluidité, on peut la représenter ici, dans ce modèle-là. Vous voyez? C'est une nouvelle vision du monde qui se met en place, qui est extraire la puissance, qui est en fait la substance fossile, la garder, la transférer. Le train, la locomotive, est paradigmatique de cela. Mais on peut faire la même réflexion sur l'ensemble des multinationales. Moi, j'appelle ça des macro-systèmes techniques. Je ne veux pas rentrer là-dedans, ou Latouche appelle ça des méga-machines. Ce sont les systèmes techniques dans lesquels nous vivons sont tous fondés sur ce type de rapport au monde. Et nous sommes complètement dépendants de ces systèmes techniques. Nous sommes totalement insérés dans cet univers technique dont nous ne voyons pas du tout les tenants et les aboutissants. Nous sommes à l'émergence d'une pieuvre. Ici, nous sommes branchés sur la centrale nucléaire qui ne doit pas être bien loin. Hein. Nous sommes constamment les produits d'un système technique, ou en tout cas dépendants d'un système technique que nous ne maîtrisons pas, dont nous ne voyons pas les flux, dont nous ne voyons pas le centre, dont nous ne voyons pas la réalité organisationnelle et gestionnaire. Et ceci s'inscrit dans un monde. Excusez-moi. C'est parti. Dans un monde comme je l'ai dit ce matin, est un monde qui n'est pas né au néolithique, qui n'est pas né même au XVIIe ou au XVIIIe siècle, qui s'est construit peu à peu par des choix, justement. On n'a pas suivi le journaliste de l'illustration, on ne s'est pas posé les questions, d'autres groupes sociaux l'ont emporté que celui-là. Et vous avez ici un bel exemple de ce que c'est que la technologie de puissance. C'est un calcul qui a été fait par les militaires américains sur la puissance, sur la capacité destructrice des armes. Vous voyez que jusqu'au fusil à pierre 18e siècle et même le fusil à petite balle au milieu du 19e siècle, on est encore, excusez-moi de prendre cet exemple-là, peu morbide, mais nous sommes dans un rapport humain avec la destruction. On a encore, peut-être dans la réalité de l'acte meurtrier, quelque chose qui nous rappelle ce que nous sommes. Quand on passe, et vous voyez que le développement technique, c'est pas nécessairement lié à la puissance jusque-là. Art, technique, esthétique sont mêlés. L'utilité, c'est pas simplement la destruction de l'autre. Il y a le panache, Il y a la manière d'être guerrier, il y a la vertu héroïque de celui qui est sur le champ de bataille, qui est peut-être tout aussi importante dans le développement de l'arme, et qui empêche la seule fonctionnalité utilitaire et efficace. Et vous voyez par exemple que donc, jusqu'au mousquet, le mousquet au XVIIe siècle, 47, il est à peine deux fois plus puissant que l'arc et les flèches. Ce n'est que à partir de la Première Guerre mondiale, où vous avez là des armes qui sont d'une puissance incommensurable avec les autres. Donc ici, vous avez vraiment une technologie de puissance et aussi la démonstration que cette volonté de puissance est une acquisition récente de notre monde. La technique, à ce moment-là, devient autonome, et c'est tout le sens de l'aphorisme d'Ellul sur l'autonomie des techniques. Ce n'est pas qu'elles sont autonomes, c'est qu'on les conçoit comme autonomes à partir d'un certain moment, et qu'effectivement, elles se réalisent comme telles dans une seule idéologie de la puissance et de l'efficacité. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Alors, je voudrais, pour revenir là-dessus, revenir sur la notion d'efficacité. D'abord, le progrès en tant que tel. Oh là. Bon. je vais essayer d'apprécier. Mais ce que vous avez vu tout à l'heure avec le roi Gouron, c'est l'idée d'une tendance technique. Comme si depuis le début de l'humanité, il y avait une volonté de l'homme à faire des couteaux. Eh bien, lorsqu'on parle de la voiture automobile en disant que c'est un progrès, on a exactement la même conception. Or, la voiture n'a rien à voir sociologiquement, anthropologiquement, avec le char à banc ou avec le carrosse. Ce n'est pas un carrosse à moteur. Ce n'est pas un char à banc à moteur. C'est tout à fait autre chose. C'est l'inscription dans une société individualiste de concurrence, de consommation, etc., etc. Et d'usage d'énergie fossile avec un moteur thermique. C'est plein de choses. Je n'ai pas le temps de le développer, mais la technologie de la voiture n'a rien à voir avec la technologie du transport hippomobile ou autre, n'est-ce pas? C'est un autre engin. Alors, là où il y a de la poudre de perlimpinpin jetée par les historiens, c'est qu'on nous fait croire qu'elle est la succession d'un désir de l'homme de rapidité, que dénonçait Bernanos et que dénonçait le journaliste d'Illustration, qui existerait depuis l'aube de l'humanité. Ce n'est pas ça du tout. Le progrès technique de la voiture, effectivement, il existe, mais dans une trajectoire technologique. Il est évident que les boîtes à vitesse d'aujourd'hui sont plus efficaces que celles de la De Dion-Bouton de 1896. Il y a effectivement des pneumatiques qui sont plus adhérents que ceux des voitures, des bandages du début du XXe siècle. Il y a, on peut suivre à la trace le progrès technique dans un objet. Dans un objet. Mais le progrès technique en tant que tel n'existe pas. Parce que si vous comparez la voiture d'aujourd'hui avec le char, puisque je prends le même exemple pour simplifier, avec le carrosse ou le char avant de nos arrière-grands-parents, le char avant, il pouvait passer dans n'importe quelle route, non asphaltée, route de terre avec des ornières énormes. Il pouvait se déplacer après un orage, ce n'était pas un problème. Le cheval qui le tirait pouvait bouffer sur le bord de la route. N'est-ce pas? C'est ce que disait Frédéric II à ses soldats. J'ai pas d'intendance, débrouillez-vous, vous avez qu'à faire manger vos chevaux sur le bas de la route. Bon, il y avait ici une localité de l'énergie, une capacité à faire face à des conditions extérieures très difficiles. Aujourd'hui, notre voiture ne peut plus fonctionner s'il n'y a pas de l'asphalte, qui est elle-même un sous-produit du bitume, donc du pétrole, et qui est gardé par une armée gigantesque qui se trouve sous les puits de pétrole. La voiture est totalement inefficace si on la compare au char à banc de nos ancêtres. Moi, je le dis et je le maintiens. Voilà. Donc, l'efficacité, il faut la reconstituer à travers des objets techniques qui sont incommensurables entre eux. Savoir ce que l'on fait avec ces objets techniques, se voir pourquoi on veut ces objets techniques et comment on peut les comparer. Bien, alors je suis obligé de terminer, j'aurai d'autres exemples. La complexité, par exemple, dont un de mes collègues et amis a plein la bouche, c'est Edgar Morin, la complexité, l'hypercomplexité de ce monde. Mais quoi, ce monde, il n'est pas plus complexe que celui des Bororo ou des Yanomani d'Amazonie, hein? Il est complexe à sa manière, notre monde. Il est complexe, on nous fait croire qu'il est complexe parce que cela nous rend dépendants des grands systèmes techniques. Parce que justement, nous n'avons plus d'autre mot à dire. Mais non, tu te rends compte, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Une centrale nucléaire, tu ne peux pas comprendre. Donc, écrase-toi. Hein? Voilà, donc, cette notion de complexité, elle doit être combattue. S'il y a quelques combats à mener, c'est celui de l'efficacité, c'est celui de la complexité, c'est celui de la comparaison entre les modes de vie. L'usage de l'eau aujourd'hui, est-ce qu'on le compare avec les 30 litres que dépensaient les bourgeois de Paris du XIXe siècle, ou avec les paysans qui représentaient 75 ou 80% de la population à l'époque, ou on le compare avec les étuves des Romains? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas mieux lotis avec l'eau, surtout quand on connaît les problèmes qu'il y a. Donc vous voyez, la notion de comparaison dans l'histoire n'a pas grand sens non plus. Voilà, alors pour terminer très vite, je pense que s'il faut être positif, enfin s'il faut essayer donc de penser à la décroissance, je pense qu'il faut essayer de relocaliser la puissance pour la rendre humaine. Un exemple bien concret, les éoliennes, les remettre dans un contexte local, ne pas se brancher sur le réseau, se débrancher du réseau. Ensuite, faire comme si, on a parlé de l'hypothèse de Gaïa, Lovelock, etc. Hein. Oui, faire comme si la Terre était un sujet, comme si nous étions en communication avec cet être qui est le nôtre, hein, dont nous faisons partie, qui est la Terre. Au fond, une vision un peu chamanique des choses. Ensuite, ça c'est très important, considérer que le progrès est un jeu à somme nulle. Il n'y a pas de progrès. Il y a un jeu, on choisit quelque chose plutôt qu'un autre. Mais il n'y a pas de progrès en soi. C'est un choix à chaque fois. Il y a quelque chose qui est mieux. Hein, c'est les goûts, les couleurs. Hein, c'est un choix que l'on fait en fonction de certaines valeurs. Mais le progrès en soi est un jeu à somme nulle. Et puis, je parais un petit peu anti-technicien ou technophobe. Je ne le suis pas du tout. J'adore la technologie. Mais il faut la recomposer et la reconquérir. La reconquérir subjectivement. Faire quelque chose que l'on peut comprendre, que l'on peut aimer, et non pas quelque chose dont on est dépendant. Je pense que donc, que le progressisme technologique aveugle que nous vivons est devenu la figure centrale du nihilisme contemporain. Et il ne sert à rien de lutter contre le nihilisme, il suffit de révéler son inconsistance, et pour cela, je pense ouvrir la voie à un alter-progressisme. Merci.